Bonjour à tous, à tous les fidèles. Nous sommes ravis de recevoir pour ce dernier Mola Polar de la saison, donc Mola Polar du mois de juin, un auteur de la série noire qui est Pierre Guiteau, qui vient de publier son deuxième roman donc dans cette même collection, donc qui s'appelle D'ombre et de flamme. Et le premier qui s'intitulait La file de la pluie en 2013 dans la même collection. Alors la quatrième de couverture vous présente un petit peu parce qu'on vous connaît peu, Pierrick Guiteau. Vous vivez apparemment dans la Sologne berrichonne.
Oui.
Et vous vivez dans le Berry depuis plus de 30 ans. Est écrit sur la quatrième couverture. Et cette région est le cadre de votre second roman, deuxième, D'ombre et de flamme, dans cette région qu'on doit appeler maintenant Centre-Val de Loire, c'est ça?
Oui, ça doit être ça. Je crois qu'on a, en tout cas, on n'a pas changé les limites géographiques de la région.
Dans Nombre de flammes, donc ce qui se situe donc dans cette Sologne, et vous ne cachez pas votre rapport à ce qu'on appelle le polar rural ou le rural noir. Comment est-ce que vous avez un mot parce que vous avez un blog, c'est le Backwoods noir.
Oui, voilà. Bon, c'est un terme anglo-saxon, mais il y a très peu d'équivalent en fait en français pour ce terme-là, puisque les Backwoods en anglais, c'est aussi bien les sous-bois que ce qu'on peut appeler en français la cambrousse ou la campagne, mais avec un sens un petit peu péjoratif. C'est quand même, ça désigne des endroits qui sont très isolés et puis en général assez sauvages, avec éventuellement un peu de relief, beaucoup de présence de la forêt évidemment. Donc c'est ce terme-là que j'ai réutilisé, à défaut d'en utiliser un autre. J'aurais préféré qu'il y ait un équivalent français, mais il n'y en a pas. Donc voilà, parce que polar rural, c'est très très générique. Ça peut aussi bien recouper les grands espaces, comme on voit chez certains auteurs américains, Tony Hillerman. Voilà, c'est vraiment le Midwest américain, les grandes plaines. C'est la campagne. Ça peut être aussi le monde agricole. Mais le Backwoods, c'est plutôt centré autour de la forêt, les exploitants forestiers, les petites communautés qui vivent dans des forêts assez denses, assez reculées, avec une forte présence de la nature, de la faune sauvage. Voilà, donc c'est pour ça que ce terme, assez précis en anglais, bon, je l'ai réutilisé. Et c'est un genre auquel je me suis intéressé, puisque, comme vous le disiez, maintenant j'habite en Sologne-Berrichonne. Et en fait, quand j'avais commencé à vouloir écrire, j'avais lu un livre de Stephen King où il parlait de son métier, Mémoire d'écriture, qui est un très beau livre sur pourquoi il a commencé à écrire, comment il a pu commencer à écrire. Et en fait, il disait, ce que je conseille aux jeunes écrivains ou aux aspirants écrivains, c'est de parler de ce que vous connaissez. Donc, comme j'ai vécu en ville et puis j'ai travaillé dans les quartiers nord de Bourges pendant plusieurs années, j'avais écrit un tout premier roman qui se passait dans cet environnement-là. Puis après, comme ma vie m'a fait se déplacer en Sologne avec ma famille et que du coup, il y avait aussi tout ce passé berrichon où je vis depuis plus de 30 ans. Ça m'a forcément influencé, imprégné. Et puis, naturellement, j'en suis venu à m'intéresser à ce genre de la littérature noire.
D'accord. Donc, la rencontre avec le polar, finalement, elle est plutôt assez récente.
Oui, alors le polar, j'y suis venu. En fait, j'étais parti en formation professionnelle. J'ai fait une formation pour adultes un petit peu après mes 30 ans. Et du coup, je me suis retrouvé éloigné de ma famille pendant 10 mois où je partais la semaine. J'étais dans une petite chambre à l'AFPA, les centres de formation pour adultes de 8 mètres carrés. Et je rentrais chez moi que le week-end. Et du coup, les soirs à l'AFPA, c'était un petit peu austère. Et beaucoup de jeunes avaient leur PC portable, ils regardaient les séries ou tout ça. Et moi, j'en ai profité en fait pour lire beaucoup. Et j'avais découvert un titre de James Ellroy tout à fait par hasard à Paris quand j'avais été chez la librairie en face de la Sorbonne. Et j'avais pris un James Ellroy sur la base de la couverture, la quatrième de couverture, ça me parlait. Je ne connaissais pas du tout le polar parce que pour moi, le roman policier, c'était un peu péjoratif. C'était Navarro, Julie Lescaut ou des trucs un petit peu plus daté, qui était intéressant, mais comme Simenon. Voilà, j'étais vraiment dans le... Et en fait, j'ai découvert ce qui était vraiment à ce moment-là le roman noir. Du coup, je me suis dit, bon, je vais lire un peu tous les classiques. Donc, j'ai regardé sur Internet. Il y a pas mal de blogueurs, d'internautes qui font leur liste des classiques, les 50 titres à lire dans le polar, ou de Chandler à Met jusqu'aux Manchettes, ou les auteurs plus récents comme Antoine Chénas, qui avait relancé un peu la série noire il y a une dizaine d'années. Donc, du coup, je m'étais fait une liste de lecture, puis j'ai lu. Puis comme ça faisait une quinzaine d'années que j'avais envie d'écrire, mais je voyais vraiment pas ce que je pouvais écrire. Quand on se lance dans la littérature, en général, on se dit bon, il y a eu déjà tellement de choses bien écrites, on voit pas trop ce qu'on pourrait rajouter. Et là, je me suis retrouvé face à ce genre et je me suis dit, ah bah voilà, c'est peut-être le genre d'expression que je cherchais, que je connaissais pas. Et j'ai dit, bah, je vais écrire un polar. Alors au début, je n'avais pas vraiment l'ambition de le faire publier. Puis ça s'est fait et du coup, je suis rentré comme ça. C'est vrai que c'était une découverte un petit peu tardive. Quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup de fantasy, de littérature fantastique. J'ai parlé de Stephen King tout à l'heure notamment. Tolkien, voilà, j'étais plutôt dans ces univers-là. Et le polar, c'est venu, oui, de façon plus mature.
Oui, vous nous avez amené, j'imagine que c'est en effet des lectures aussi de jeunesse, donc propice à un imaginaire qui se développe chez un écrivain en germe.
Oui,
donc
c'est ça.
Vous citez Dune, Frank Herbert et Silmarillion de Tolkien notamment,
oui.
Qui sont des littératures qui vous intéressent aussi, puisque vos polars ont aussi cette spécificité-là d'avoir une teinte de fantastique.
Oui, je crois que ça vient de là, hein. Il ne faut pas chercher plus loin. Parce que ça, c'est vraiment deux auteurs, Frank Herbert et Tolkien, qui m'ont marqué quand j'étais fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, quand j'étais étudiant. Je pense que petit à petit, j'y reviens, puisque de plus en plus, déjà dans mon premier roman, je pense qu'il y avait une part, quelque part, c'était tellement sombre que ça devenait fantastique. Et on l'a vu avec La fille de la pluie, où il y a une petite réinjection comme ça de magie qui arrive, qui se prononce encore en plus dans D'ombre et de flamme. Et je pense que, de toute façon, inconsciente, hein, je m'en suis rendu compte après, que voilà, le fantastique reprend le pas et vient se remêler du coup à la littérature polar plus classique. Et ce mélange qui n'était pas voulu à la base, il commence à s'imposer dans ce que j'écris et je vois que c'est ce qui m'intéresse et aussi c'est peut-être ce qui intéresse Aurélien, mon éditeur, et on a envie de continuer à travailler cette fibre-là. Et forcément, oui, c'est, en plus, Dune et Le Silmarillion, c'est des ouvrages que je relis tous les 3-4 ans, je les relis parce que c'est des classiques intemporels qui, en plus, peuvent pas s'appréhender, je pense, en une seule lecture. À chaque fois qu'on le relit, on redécouvre des choses. Dune, c'est vraiment c'est de la science-fiction, mais pour beaucoup de fans de Frank Herbert, c'est une bible parce que ça aborde aussi bien les thèmes politiques, sociaux, même la génétique, le futur de la science, les grands conflits politique, c'est des grandes familles, c'est un peu Game of Thrones avant l'heure, dans un monde science-fiction. Et c'est un auteur qui a été très très connu dans les années 70, qui tombe un petit peu en désuétude. C'est dommage, il y avait un nouveau projet d'adaptation cinématographique qui a un peu tombé à l'eau, parce que c'est comme le Seigneur des Anneaux de Tolkien, c'est un livre réputé inadaptable au cinéma. Peter Jackson avait relevé le défi pour Le Seigneur des Anneaux. Alors j'espère qu'un auteur pourra relever le défi, parce que David Lynch avait fait une version au tout début des années 80, que moi j'aime bien, mais qui est un petit peu psychédélique et qui avait dérouté aussi bien les lecteurs d'Herbert que les gens qui s'attendaient à voir quelque chose plutôt cadré comme Star Wars, grand space opéra, assez classique, assez lisse. Et en fait, Lynch a évidemment proposé un truc très personnel qui a des points très intéressants. Après, évidemment, il avait été obligé de faire certains raccourcis par rapport à l'œuvre. Et du coup, ça avait été un peu mitigé, mais c'est un DVD que je regarde encore de temps en temps, parce que oui, c'est vraiment une œuvre très, très profonde. Et je pense que ça a été une influence, ces deux auteurs fantastiques-là, oui.
Et justement, par rapport à Aurélien Masson, enfin, voilà, vous êtes publié directement dans la série noire. C'est une sacrée. Vous disiez Elroy tout à l'heure, Rivage. Là, c'est la série noire. Enfin, voilà, ce sont des maisons d'édition qui vous fascinaient.
Ah oui, bah bien sûr, parce que quand j'avais 15 ans et que... j'ai rien fait pour écrire, mais je ne sais pas pourquoi, quand j'avais 15 ans, je savais que j'écrirais un jour, sans rien écrire à l'époque. Alors, c'était peut-être un peu bizarre, mais c'est une espèce de conviction que j'avais. Et si on m'avait demandé à l'époque où j'aurais aimé être publié, c'était évidemment chez Gallimard, parce que c'est pour moi la maison d'édition la plus prestigieuse en France, avec l'historique, tous les auteurs qui ont été publiés par Gallimard dans tous les domaines. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu se retrouver à la série noire comme ça, c'est vraiment une chance.
Comment vous avez rencontré Aurélien Masson, sa manuscrit par la poste que vous avez
envoyé? Oui, voilà, j'ai envoyé un projet par la poste. À l'époque, il m'a répondu. Le projet en question ne l'intéressait pas, mais j'ai vu à sa réponse qu'il laissait une porte ouverte en disant bah, si un jour tu as autre chose, pourquoi pas. Donc un an, deux ans sont passés. Puis après, j'avais un nouveau projet qui, je pensais, pouvait lui convenir. Et du coup, je lui ai envoyé. Et c'est sur la base de ce manuscrit, qui finalement n'a pas été publié, mais que j'ai eu mon premier contrat à la Série Noire. Et aujourd'hui, c'est vrai que... Voilà, déjà le deuxième titre à la Série Noire, c'est un peu inattendu. Il y a cinq ans, on m'aurait dit ça, j'aurais dit c'est pas possible. mais Aurélien, c'est quelqu'un dans l'édition, je pense, qui est important parce qu'il a aucun préjugé, aussi bien en termes d'auteur que d'œuvre. Il est vraiment très ouvert sur la nouveauté. Il a fait un gros travail pour remoderniser un peu la Série Noire, justement, la sortir du truc très classique, l'enquêtisme avec le détective. Et voilà, je pense que c'est parce que je ne sais pas si en dehors de lui, j'aurais pu trouver vraiment ma place ailleurs. Donc voilà, il m'a fait confiance et je le remercie pour ça. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble.
Oui, parce qu'il a publié une salve d'auteurs français, justement, qui renouvelle le genre. Il nous disait justement combien ça lui était important d'avoir cette tradition du polar, du roman noir français. En même temps, j'ai pris la revue L'Indique, qui est justement dans le numéro 22, un numéro assez récent de novembre 2015, où il est interviewé pour un numéro spécial sur crime à la campagne, justement, et où il dit qu'on bien pour lui le roman noir doit dépasser les clichés. Il citait notamment ADG de Beristory ou La nuit des grands chiens malades que vous aimez ou que vous citez aussi. Voilà, il citait des comme quoi le polar rural n'est pas c'est une veine aussi commerciale, quoi. C'est une
oui, alors aujourd'hui c'est revenu à la mode, et y compris les auteurs français. Mais voilà, Aurélien, il y a 10 ans, quand il a dit moi je vais axer la série noire sur des auteurs français avec au minimum une parité dans les publications annuelles, c'était pas du tout la mode, ou c'était pas du tout une tendance. Il s'est vraiment battu pour réimposer des auteurs français, parce qu'à l'époque tout le monde voulait des auteurs étrangers, justement. Alors il y a eu la vague du polar scandinave, tout le monde voulait des auteurs qui s'appelaient Mson.
Voilà.
Donc forcément il y a toujours des effets de mode dans les courants littéraires. Lui s'est battu pour réimposer des auteurs français, et aujourd'hui on a vu que voilà, avec l'anniversaire de la série noire l'an dernier, qui a eu un retentissement important, et aussi à l'étranger. Voilà, on voit que les étrangers commencent à se réintéresser aux auteurs français, en disant oui, ces auteurs-là, ils ont quelque chose à dire au niveau de polar ou de roman noir. Et c'est aussi, on peut le remercier pour ça, parce que c'est une partie de son travail où il y a 10 ans, c'était pas la mode, et lui s'est battu pour ça. Et aujourd'hui, j'espère que la série noire porte ses fruits, en tout cas de ce travail-là. Et c'est très bien. Après, évidemment qu'il faut traduire des auteurs étrangers, c'est important. Mais on voit un renouveau, en tout cas au niveau des auteurs français, dans le noir. Et c'est pas très surprenant, je pense, parce que forcément, c'est toujours lié à une situation sociale. Voilà, on sait bien qu'en France, en ce moment, les Français sont pas toujours bien à l'aise dans leur basket. Il y a beaucoup de problématiques, donc c'est pas surprenant que le mode d'expression qu'est le polar, puisqu'il a une dimension sociopolitique, en tout cas, il exprime un mal-être. Et du coup, il y a un renouveau, et des jeunes auteurs aussi qui viennent au roman noir, et c'est très bien.
Oui, en 2015, il avait publié un très beau roman que j'avais lu d'Elsa Marpeau, Ils oublieront la colère, qui se passe aussi dans une France rurale, dans l'Yonne, si je me souviens bien. En 2016, donc il y a Benoît Mainville, bien sûr, avec Rural Noir, qui était un peu au début de l'année, voilà, qui a un peu imposé aussi cette vague en même temps avec Patrick Delperdange, et donc vous ensuite là au mois de mai. Mais Aurélien Masson, lui, ce qu'il dit aussi, c'est l'intérêt pour la France périphérique, la France oubliée, quoi. C'est plus ça qui l'intéresse que la ruralité.
Oui.
Je crois bien.
Oui,
c'est
oui.
Vous aussi cette.
C'est. Alors, je pense que, oui, effectivement, lui, ce qu'il voit surtout, c'est dans le mode d'expression littéraire, c'est la France dont on ne parle pas, finalement, dans les médias, puisqu'elle ne s'exprime pas forcément, elle ne cherche pas forcément à s'exprimer. On va parler beaucoup soit des instances politiques générales, des institutions, des grandes villes, ou alors des banlieues, avec leurs problématiques propres. Et puis, on a l'impression que tous les autres gens, bon, bah, ça va à peu près pour eux, on ne dit rien. vient, et là il y a tout un courant d'expression qui vient et qui veut parler justement Benoît Mainville, voilà, des petites villes comme ça où des citadins reviennent, ils ont un passé, Elsa Marpeau qui s'est penchée sur la dimension historique, la façon dont les femmes ont payé un petit peu les lâchetés de tout un peuple, parce que c'est ça, et qui s'est, avec forcément dans le milieu rural des tensions qui sont exacerbées, et avec un roman comme ça qui jouait entre le présent et le passé, en se projetant aussi sur le futur. Benoît Mainville, c'est ça, l'incorporation de problématiques vraiment modernes, puis il y a des histoires de trafic de stupéfiants qui viennent s'implanter dans des zones rurales où on pourrait penser que tout va bien, il n'y a pas de délinquants, c'est calme. Et en fait, non, Benoît Mainville, il montre que c'est des petites villes qui déjà ont été frappées de plein fouet par la désindustrialisation, par les effets pervers de la mondialisation, et aussi une criminalité qui commence à venir s'implanter dans les zones rurales. Alors, moi, je m'intéresse plus sur le thème de l'ensauvagement qui est au centre de ce nouveau roman, avec la Sologne et sa tradition de sorcellerie, la dimension magique, la vieille forêt magique. Et faut pas oublier que la Sologne, à l'origine, c'était la forêt sacrée des Celtes. C'était la forêt des Carnutes, où tous les druides se donnaient rendez-vous, qu'on retrouve dans les BD d'Astérix, mais c'est une réalité historique. Et dans ma région encore, il y a beaucoup de rebouteux, des gens qui barrent le feu, qui barrent les zonas. C'est très commun, les gens vont les voir. Pour eux, il n'y a rien d'exceptionnel à aller voir ces gens-là. Et en même temps, ça s'est dilué très bien dans la modernité. C'est les mêmes gens qui ont des smartphones et des comptes Twitter qui vont aller se faire barrer le feu s'ils sont fait brûler ou s'ils ont un zona. C'est tout à fait admis. Et c'est ce vieux fond historique-là, moi, qui m'a intéressé. Et avec la dimension de la forêt, puisqu'évidemment, et comme je suis chasseur et habitant du monde rural, c'est une thématique qui est assez peu exploitée, les chasseurs dans le roman noir en France.
C'est la spécificité.
Alors, souvent, c'était un peu les méchants. C'était les personnages négatifs qui étaient un petit peu... Voilà.
Les prédateurs.
Oui, puis c'est des gens qui utilisent des armes, donc ils ont un rapport à la violence. Et puis on les voit toujours. C'est un peu ce que j'appelle le syndrome délivrance. C'est un film où je pense que tous les gens qui l'ont vu, ils ont été marqués par ce film-là, qui est vraiment où on voit les gens de la campagne comme des personnages très hostiles, totalement arriérés, avec une violence comme ça à fleur de peau, et où les pauvres citadins vont tomber dans leurs griffes. Et c'est le syndrome délivrance. Moi, ça m'a intéressé, c'était de travailler un petit peu contre ces clichés-là, de remettre les gens du monde rural au centre de la narration. Avec leurs défauts et leurs qualités, sans essayer d'être manichéen, il n'y a pas de bon ni de mauvais. Et c'est un peu moi l'axe de mon écriture, c'est d'essayer de faire un roman noir au-delà des clivages du bien, du mal, s'intéresser juste aux personnages, comment ils évoluent.
Et au-delà des clichés, puisque en fait, votre personnage principal dans D'ombre et de flamme, qui est un major de gendarmerie, oui. Donc Fabrice Remangeon, qui est fils de sorcier, fils de rebouteux, et justement qui va être muté dans sa région natale à cause d'une sanction. Il a pris un coup de sang contre un chauffard qui avait tué et massacré toute une famille qui roulait à vélo. Et donc, sanction qui tombe. Donc, dès le début du roman, il revient dans cette région qu'il maudit.
Oui, voilà.
Donc là, vous contrevenez au cliché du retour, idyllique aux racines.
Il y revient contraint et forcé, puisque effectivement, suite à ce qu'on peut appeler une bavure, il est sanctionné. Et les instances décident de ne pas le radier totalement des cadres de l'armée, parce que il est quand même proche de la sanction finale. Et pour le punir, il le renvoie dans sa Sologne, puisqu'ils savent qu'il s'est engagé dans la gendarmerie pour en partir. S'il vient d'un milieu où, il a grandi dans une ferme, son père était rebouteux, sa maman était presque analphabète, et c'est quelque chose qui a porté sur lui où on voit qu'il avait du mal à l'assumer. Et du coup, pour lui, la gendarmerie, c'était un échappatoire. Il a passé le concours, il est parti. Il espérait bien ne jamais en revenir. Il s'est marié avec Élise, une femme qu'il adulait, où il a un rapport comme ça très... il l'a mise sur un piédestal, et parce qu'elle était aussi quelque part une antithèse de ce milieu-là. Une femme assez sophistiquée, très belle. Et là, il va revenir, et son seul souhait, c'est soit de faire une autre bêtise pour être sanctionné définitivement. Où on voit bien que à ce moment-là, il est vraiment borderline. On voit qu'il est au bord de la rupture.
C'est pire que le licenciement pour lui.
Ah oui, c'est son pire cauchemar, parce qu'il avait essayé de couper tous les ponts avec ce milieu-là. Ses parents sont décédés, sa femme a disparu, plus personne n'a jamais eu de nouvelles, et il voulait ne jamais revenir ici. En plus, c'est l'endroit où sa femme avait disparu il y a 10 ans. Voilà. Et du coup, il se retrouve confronté à des problématiques qu'il ne voulait pas voir du tout. Et c'est le lancement du roman, et il va devoir réapprendre à vivre avec ce milieu-là et renouer avec ses racines quelque part.
On dit même que cet être borderline, violent, social, qui est tenté par la disparition de sa femme, aurait été lui-même impliqué.
Oui, parce qu'au début, c'est un personnage qui apparaît assez trouble quand même, parce que on voit qu'il est extrêmement seul. Il dit qu'il prend sa voiture pour aller en ville, mais il ne se mêle pas aux gens, il ne fait que les observer. On le sent qu'il est très en retrait. Et justement, il s'est réfugié un peu dans ces zones périphériques dont vous parliez tout à l'heure, qui ne sont pas vraiment la ville, mais pas vraiment la campagne, plutôt le monde des rocades, des zones commerciales. Voilà, on sent qu'il est dans ces milieux-là, comme ça, dans une petite brigade en milieu urbain, mais qui n'est pas le centre-ville ou le milieu urbain de grosse densité. Et une espèce dans cette interzone, je pense, qui est symbolique de son interzone mentale, où à ce moment-là, il est quand même peut-être pas loin de perdre pied. Alors, on pense que c'est à cause de sa violence ou de son caractère. Et du coup, quand sa hiérarchie dit qu'il est peut-être lié à la disparition de sa femme, on ne sait pas trop, il n'y a pas d'éléments. C'est peut-être aussi parce qu'une façon de dire, de lui jeter la pierre et dire, bon, on ne veut plus vraiment de lui. Et du coup, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Mais on sent que c'est un personnage qui a des problématiques internes assez lourdes. Et la clé de ces problématiques, c'est justement quand il va être forcé de retourner chez lui, qu'il va peut-être pouvoir les résoudre.
Mais justement, est-ce que vous pouvez lire un passage de votre livre où justement il parle de son rapport, ou si vous voulez que je le lise, enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, où justement il est en train de discuter avec Delphine, donc qui est une amie d'enfance, son premier amour qu'il retrouve dans ce village natal, et justement où il parle de ce rapport à ses racines, à ses origines et à ses souvenirs qui le hantent et qu'il ne veut pas voir, parce que je trouve ce passage très beau, quoi. Ici, page 89-90.
Mis en danger par ce souvenir chargé d'émotions complexes et aiguillé par son orgueil, le gendarme réplique. « Vous ne comprenez pas. Mon père n'est plus, ma mère non plus. Tout ça, ce sont de vieux souvenirs. Ce monde n'existe plus que dans votre esprit. Il y a un nouveau monde, là, dehors, qui attend. Les gens de votre propre pays n'y parlent plus la même langue que vous, et leur seule culture est celle des ordinateurs que vous rejetez. Les ordinateurs, des saloperies ? Mais leur vie entière est dans les ordinateurs désormais. Leurs amis, leur travail, leurs amants, leurs maîtresses, leurs enfants, leurs secrets. Tout ! Ils sont des millions, des milliards, et vous n'êtes plus que quelques milliers en sursis. Ce monde n'attend qu'une chose, c'est de vous engloutir, vous, votre ferme, votre patois et vos jeteurs de sorts. Ce n'est plus une question de croyance ou d'ignorance, mais une question d'offre et de demande. Dans ce nouveau monde, on ne jette plus de sorts à ses ennemis. Il suffit de ruiner leur réputation sur les réseaux sociaux. C'est le chômage qui attend les sorciers. Ignorant les implications et la portée des prédictions de Remangeon, Delphine s'accroche aux deux derniers mots du visiteur pour alerter ses parents. Il l'a vu. Il a vu le bouc rouge dans le pré de la caille tout à l'heure. Le père se contente de hocher la tête en silence face à cette nouvelle information, cette nouvelle preuve à charge, tandis que la mère lève la tête, un petit sourire étirant ses lèvres étroites. Et comment que ça se fait qu'il ait vu le rouge auprès de la caille, s'il veut point le faire ? La mère à la petite ménage son suspense et profite quelques longues secondes du silence qui est tombé dans la cuisine de la ferme des Garennes. Elle conclut, une lueur de victoire ironique dans ses yeux gris. Parce que le rouge, il est à Blois aujourd'hui. C'est la mère de Bar qui me l'a dit. Parce que c'est son gendre qu'emmenait le rouge au tribunal, pour son procès attrapé en voiture. Le père, la mère et la fille braquent leur attention sur le gendarme, leur visage fermé et résolu. Que leur répondre ? Fabrice n'est même plus sûr de ce qu'il a vu. C'était une silhouette humaine, une démarche qui ressemblait à celle du braconnier, mais ça aurait très bien pu être quelqu'un d'autre. Peut-être même une illusion d'optique, un effet du soleil dans les yeux. Il n'y a rien à ajouter, alors le gendarme prend congé. Les à la petite répondent à son bonsoir par des grognements et Delphine lui jette un regard implorant, sans qu'il comprenne trop ce qu'elle cherche désormais. D'être pardonnée de l'avoir entraînée dans un tel traquenard ? Une fois seuls, Léa la petite réfléchissent chacun dans leur coin, évaluant la situation et les perspectives qui s'offrent à eux. « C'est malheureux quand même, dit la mère, d'être devenu comme ça si prétentieux. C'était un bon gamin, le fils Remangeon. J'aurais bien aimé qu'il vienne nous demander la main de la Delphine. » « Il n'est pas prétentieux, objecte la fille. » Le vieux réagit. « Ah bon ? Et comment que t'appelles ça, toi, un fils qui renie son père et ses origines ? Il faut pas qu'il oublie qu'il est né à une ferme au fond des bois, une terre de rien, juste bonne à filer des coliques et des fièvres. S'il n'a pas connu la misère de tant d'autres, c'est grâce au talent de son père. Le père Remangeon, si ça l'a emmené si jeune, c'est pas à cause de la boisson ou du tabac, c'est à cause de tout ce travail qu'il a fait sur des milliers de gens. Ça a fini par le tuer. Il pourrait respecter ça, au moins, ton gendarme. »
Merci. Alors justement, on voit aussi l'art des dialogues que vous avez retranscrit de certaine façon avec ce patois Berrichon, avec cette façon de parler. C'est très vivant. Il y a beaucoup de dialogues dans votre écriture. Comment vous travaillez cette part de l'oral?
Alors, je sais pas trop en fait.
Sans verser dans la caricature non plus.
Oui, justement. C'est. Je pense que le dialogue, c'est le cœur du polar. Le roman noir, ce genre littéraire, il repose pour moi sur deux fondamentaux. C'est pas l'enquête ou les rebondissements ou la façon dont on pourra emmener le lecteur sur une piste qu'il n'attendait pas. Pour moi, c'est les dialogues et les personnages. Le roman noir, puisqu'il s'intéresse à la part sombre qu'on a chacun en nous, il est obligé de passer par des personnages complexes et qui vont être pas simplement des silhouettes en carton dans un décor de cinéma. Il faut que ça soit des gens qui nous parlent, dans lesquels on peut partiellement s'identifier, qu'on connaît ou qui nous rappellent quelqu'un, qui nous rappellent quelque chose qu'on a vécu. Donc ça, je pense que c'est un des enjeux fondamentaux. C'est les personnages. Il faut qu'ils soient réalistes. Il faut qu'on se dise, ah oui, quelqu'un comme ça peut exister. C'est pas un super-héros, il est pas parfait. Et c'est pas non plus un serial killer extrêmement mauvais qui fait des choses totalement incompréhensibles. C'est chacun de nous qu'on doit pouvoir retrouver. Et puis les dialogues, c'est une question de rythme. Je pense que c'est... j'essaye de voir comment des gens parleraient en vrai. Alors on est toujours obligé d'adapter un tout petit peu, parce que si on fait du dialogue tel qu'on parle vraiment dans la vie, ça va sonner extrêmement haché. Et il ne faut pas non plus que... des fois, moi, je lis des livres et à un moment donné, il y a un dialogue de 10 lignes. La personne fait une tirade en employant un vocabulaire, des constructions syntaxiques qu'on n'utilise pas du tout à l'oral et une espèce comme ça de déclaration qui est presque un discours rédigé. Et ce n'est pas possible, puisque dans la réalité, personne ne parle comme ça non plus naturellement, de façon spontanée. Donc, je pense qu'il faut essayer de retranscrire comme ça une espèce de rythme, qui est le rythme du dialogue avec des échanges. Des fois, les gens ne se répondent pas. Je pense que pour moi, c'est ça qui est le plus réaliste dans un dialogue, c'est quand quelqu'un dit quelque chose et l'autre ne répond pas à ce que l'autre lui a dit, mais il répond à ce qu'il avait voulu croire ou entendu, parce que dans la vie, c'est ce qu'on fait tout le temps, quelqu'un nous parle, mais nous, on a envie de lui dire autre chose. Il y a un dialogue, mais en fait, si on regarde bien les questions et les réponses, c'est pas toujours, ça ne matche pas toujours complètement. Et le patois, c'est délicat parce qu'il faut en mettre un petit peu, mais il ne faut pas non plus que ça déroute les gens qui ne connaissent pas forcément ce mode d'expression-là. Il ne faut pas que ça sonne comme du folklore ou comme quelque chose de totalement artificiel, à la limite où il faut mettre des sous-titres ou des notes de bas de page pour traduire le vocabulaire ou qu'est-ce qu'il a dit. Donc après, c'était pas le plus compliqué, puisque le patois Berrichon, aujourd'hui, il est parlé uniquement par les personnes âgées. Les jeunes ont des expressions où ça va être plus dans la tonalité, comme Remangeon. Voilà, Remangeon, c'est le nom vraiment de la Sologne, où les Berrichons et les Sauvignaux ont cette espèce d'intonation comme ça. On et des E. Le E, c'est typique du Berry. Petit gars, voilà, ça c'est. Et je pense qu'il faut arriver à retranscrire cette atmosphère du dialogue. Plus que vraiment vouloir faire un dictionnaire du patois ou qui serait artificiel.
Et on retrouve dans les deux livres, puisqu'en même temps on parle du personnage masculin, mais bien sûr il y a des personnages féminins qui sont extrêmement importants. Donc dans le premier, dans La fille de la pluie, c'est cette fille de la pluie donc qui va apparaître dans le faisceau des phares de la voiture de Hugues, donc ce clerc de notaire qui au début du livre c'est assez pittoresque qui lui arrive. En même temps on rit puisqu'on a tous été dans cette situation là un soir bon, en plus d'orage, de pluie extrême, et donc il tombe en panne de voiture, et donc on va comprendre qu'il est dans cette campagne aux alentours de Nantes, mais là vous ne citez pas de lieu précis, et il doit régler un problème de succession, un problème d'héritage, et il va tomber sur un animal, il croit, quelque chose, une ombre qui apparaît dans ses phares, et il s'agit donc de cette fille de la pluie dont on va prendre peu après qu'elle s'appelle Morgane. Et là aussi, vous utilisez un peu ce cliché de la femme fatale dans le roman noir. C'est la fille des marais de Charles Williams, tout ça, c'est cette ambiance-là aussi.
Oui, alors là, c'est la scène d'ouverture de La Fille de la pluie, j'avais voulu la travailler vraiment comme une scène cinématographique.
Ouais, elle est extrêmement forte, la scène.
Parce que c'est elle qui lance le récit, toute la dynamique du récit, et qui présente ce personnage qu'on va retrouver plus tard et qui est au centre du récit. Pour moi, le héros de La Fille de la pluie, c'est pas Hugues, le clerc de notaire, c'est vraiment Morgane, cette jeune femme. Effectivement, elle apparaît comme ça, comme une apparition un peu presque magique, sortie de nulle part, et elle redisparaît immédiatement dans la forêt et dans l'orage, et lui, il se demande ce que c'était. Effectivement, ça aurait pu tous nous arriver, des fois... Alors aujourd'hui, les GPS sont plutôt intégrés dans les voitures, mais il y a quelques années, on avait tous notre GPS à part, et qui, des fois, nous emmenait pas forcément où on voulait aller, et qui nous faisait tourner en rond, parce qu'il retrouvait pas la bonne cartographie. Et il est là, ce pauvre clerc de notaire, il se retrouve pris dans un environnement qu'il ne maîtrise pas. Lui aussi avait des origines plutôt rurales à la base, mais voilà, il est parti, il a fait des études, il a eu une vie, il voulait être rugbyman professionnel. Et il s'est retrouvé finalement, après des débuts d'études de droit, à faire clerc de notaire. Et Morgane, c'est... Là, j'ai volontairement voulu travailler sur le cliché de la femme fatale. Et c'est vrai que... On m'a fait remarquer plusieurs fois que les personnages centraux dans mes romans, c'était plus les femmes finalement que les hommes. Bon, là, il y a le personnage de Remanjon qui est figure masculine typique, voire même un peu archétypale, mais qui était aussi dans le tout premier roman où il y avait un personnage fort de policier. Mais c'est. Je sais que, voilà, Thierry Marignac m'avait dit le plus dur pour un auteur masculin, c'est de parler des femmes. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater. Parce que sinon, ça devient juste pas intéressant, voire risible. Et quand on est un homme, c'est compliqué de comprendre les femmes. Et c'est aussi tout l'enjeu de la fiction, quelque part. Moi, je suis attaché au mystère de la femme. Et je pense que d'un point de vue narratif, c'est un sujet vraiment fondamental et intéressant pour un homme. Alors après, certains pourront dire oui, mais le mystère de la femme, il n'existe que chez ceux qui veulent bien y croire. Et quelque part, c'est peut-être aussi un cliché machiste de dire qu'il y a un mystère de la femme. Alors moi, je dis que c'est un cliché plutôt flatteur et je veux m'y attacher. Et c'est vrai que j'ai du plaisir à travailler les personnages féminins, à m'intéresser un peu à leurs problématiques. Et je pense que dans le roman noir, c'est des personnages intéressants parce que quelque part, la femme a quand même de façon innée, une dimension un peu plus tragique à son existence pour différentes raisons. Mais du coup, voilà, c'est... Et là, le personnage de Morgane, c'est le cliché de la femme jeune qui va, comme un papillon nuit, attirer systématiquement tous les hommes. C'est-à-dire que c'est impossible qu'un homme qui passe à proximité ne la regarde pas.
Oui, c'est une jeune fille de 17 ans, 18
oui,
ans.
Oui, parce qu'elle est très jeune, elle est très belle. Et elle
c'est
a
une
Lolita
le rural, vous dites
oui,
à un moment.
Oui, oui. En plus, elle a un naturel assez aguicheur, très travaillé, en plus d'un potentiel spontané comme ça. Et c'est le roman sur la faiblesse d'un homme qui est déjà plus âgé, face à une jeune femme comme ça, où il se retrouve à faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il prend tous les mauvais choix, finalement. Mais c'est l'espèce d'histoire annoncée d'un échec, parce qu'il a cette jeune femme qui vient, à un moment donné, lui donner les clés de son avenir, parce qu'il cherche, lui aussi, à changer de vie. Il est comme ça sur le retour au vert, là, dont on parlait tout à l'heure, très à la mode, où il se dit « Ah, je vais aller à la campagne, je vais changer les idées, je vais fendre du bois, il est plein de bonnes résolutions. » Et il se dit « Ah, je vais m'acheter une chemise à carreaux. » Enfin, vraiment, il est dans le cliché du retour au vert. Et puis, cette jeune femme, c'est un peu une métaphore du destin qui lui dit « D'accord, tu veux faire ça, mais est-ce que tu as les épaules pour accepter ce changement de vie, arracher ton masque ?» Et voilà, c'est tout l'enjeu. Pour moi, de cette narration-là, c'est qu'elle vient comme agent du destin, Morgane. D'ailleurs, le prénom n'est pas...
Oui, bien sûr, c'est aussi les origines
choisi,
celtes.
Voilà,
la table ronde, la fée Morgane, c'est la
fée, oui, la fée Morrigan, qui était fois la déesse de la guerre. Et puis, c'était l'agent du destin dans le monde celte. Et elle aussi, elle pratique un tout petit peu la magie avec ses faibles moyens. On sent qu'à un moment donné, comme ça, elle lui jette une espèce d'incantation, une malédiction qui va peser lourd sur ses épaules.
Et on va voir qu'il va être totalement, de bout en bout du livre, totalement hanté par cette jeune fille. Jamais il n'a rencontré une femme qui lui brûle à ce point le corps, l'esprit et l'âme. Jamais il n'a ressenti un tel manque pour un autre être humain, un tel appétit de l'autre, de sa présence, même silencieuse. Elle était belle sous l'orage, parce que sauvage et inattendue, mais elle l'était tout autant en rapportant des pommes de terre de la cave au milieu de cette cour humide, ou en fumant comme une starlette à ses côtés dans la voiture, en voltigeant devant lui le long des boutiques en ville, ou allongée sur les rochers de la Combolou, dardant sa nudité solaire pour concurrencer les dernières prétentions d'un été moribond. Et justement, je trouve que vous avez dit que c'était l'enjeu aussi de capter ce mystère féminin. Moi, je trouve, en tant que lectrice et femme, que vous avez... remarquablement bien retranscrit cette dimension insaisissable et en même temps fascinante de cette...
Je crois, c'était vraiment même une surprise pour moi, parce qu'au début, quand j'ai écrit La fille de la pluie, je me suis dit, bon, un clerc de notaire qui voulait être rugbyman, il se retrouve dans un milieu rural où il y a des chasseurs, il se retrouve embringué contre lui dans une battue où il n'avait pas du tout envie d'aller. Et je m'étais dit, bon, c'est plutôt des thématiques masculines. Et en fait, j'ai eu beaucoup de retours de lectrices qui m'ont dit avoir beaucoup aimé ce roman, la place des femmes, parce qu'il y a aussi Virginie, l'agricultrice, que beaucoup de lectrices ont trouvé assez touchante. Je pense qu'elle se sentait peut-être proche aussi de cette femme-là, entre deux âges, et puis qui essaye quand même de concilier sa vie professionnelle, puisqu'elle se retrouve à mener l'exploitation agricole toute seule, suite au décès de son mari, avec son fils. Mais lui, on sent bien qu'il préfère la chasse, et sortir avec ses amis que vraiment s'occuper de l'exploitation agricole. Et puis il y a l'oncle Hippolyte qui est là, mais qui, lui, dans la tradition rurale, vit sur la ferme, mais il ne peut plus travailler.
Cette famille-là qui récupère... qui récupère le clerc de notaire qui est égaré, voilà. Et qui va l'aider au début pour sa voiture, l'amener au garage.
Qui vont lui offrir l'hospitalité. Et donc... Finalement, il va profiter un petit peu. Alors, est-ce que c'est contre sa volonté ou pas ? Il est pris dans les filets, dans l'attraction de cette Morgane qui annihile toute possibilité de réflexion. Je pense que c'est assez représentatif de la bêtise à laquelle certains hommes peuvent être s'abaisser quand ils sont face à une femme qui les fascine totalement et où ils font n'importe quoi.
La sphère incandescente de cette fée sauvage, vous dites à un moment, c'est joliment dit, puisque cette Morgane, forcément, enfin là on est dans ce côté femme fatale, elle a des boucles de feu, elle a une chevelure flamboyante rousse, elle a des yeux d'aquarelle, vert d'aquarelle, enfin voilà, elle est vraiment l'incarnation de cette force primitive, en même temps de cette énergie, mais qui va peut-être lui être fatale.
Oui, parce qu'on se rend compte que dans ce personnage-là, il y a autre chose que la séduction. C'est-à-dire que Morgane, la séduction, ce n'est pas du tout son objectif. C'est presque un pouvoir qu'elle a, mais ce n'est pas son objectif dans la vie. Elle voudrait partir de ce lieu isolé, de la famille où elle vit, et puis partir parce que, comme toutes les jeunes femmes, elle veut rencontrer des gens, elle veut avoir une vie sociale, elle veut partir à la ville. Et puis c'est une jeune femme qui aime les toilettes, le shopping, et elle veut vraiment partir de ce milieu qui lui paraît vraiment passéiste. Et c'est ça son objectif. Et le pouvoir qu'elle a sur les hommes, elle s'en rend compte. Et elle en joue forcément, mais c'est pas son objectif principal. Et on sent qu'il y a chez elle une espèce de force qui dépasse, une force naturelle finalement. Et c'est la fille de la pluie, c'est la fille de l'orage. Elle apparaît un jour d'orage et la fin du livre se termine aussi par un soir d'orage où elle est toujours là à courir les collines et on se demande un peu c'est quoi.
Même si elle est vraiment réelle.
Oui, ça pourrait presque être vu comme... une sorte de mirage. Hugues, il a couru après un mirage, une représentation qui se faisait à travers une jeune femme qui est juste une lycéenne qui va passer son bac, peut-être finalement.
Et dans L'ombre et de flamme, il y a aussi un mirage avec Élise.
Oui, alors c'est un mirage plus concret, parce que là, il y a une personne qui habite derrière.
La femme de l'eau rouge, donc justement ce bouc rouge dont vous avez lu un extrait tout à l'heure, ce braconnier donc dans cette Sologne qui a une femme qui serait
la femme du gendarme en fait, puisque on a vu qu'elle était, elle avait disparu 10 ans plus tôt, personne n'a jamais eu de ses nouvelles. Donc sa hiérarchie dit même que peut-être le gendarme y serait lié. On verra que c'est pas le cas. Et un jour, qu'il retourne comme ça sur son village, il aperçoit sa femme. Il essaye de la rattraper. Elle disparaît. Donc on est un peu effectivement dans le même genre de thématique avec La fille de la pluie. Et puis après, il va voir que en fait, elle, c'est la femme de ce braconnier qu'il soupçonne dans une affaire de braconnage un peu à grande échelle qu'on lui a demandé d'enquêter, où il n'a pas du tout envie, parce que lui, les problématiques de la chasse, il n'a pas du tout envie de revenir là-dedans. Et du coup, on dit que c'est une Russe, c'est une Ukrainienne, mais lui, il est certain que c'est sa femme, parce que c'est son portrait tout craché. Et il va courir après elle, comme ça, pendant un bon moment du livre. Et il poursuit une forme de rêve aussi, parce qu'on voit que ce gendarme, il est dans une obsession qui, là, est beaucoup plus maladive que Hugues. Hugues, il est sous charme de Morgane, il n'arrive pas à s'en détacher. Mais il n'y a pas de dimension vraiment maladive. Là, le gendarme Remangeon, il s'acharne à vouloir poursuivre cette femme, à la trouver, jusqu'à aller l'importuner chez elle. Il va l'épier quand même, il se retrouve dans un rôle de voyeur, comme ça, pour essayer de découvrir pourquoi cette femme l'aurait abandonné, et pourquoi surtout elle serait remariée avec ce braconnier qui est quand même vraiment un gars du cru, assez rustre, qui passe son temps dans la forêt, qui est solitaire. On voit bien qu'il vit dans un coin assez reculé, les gens du village se méfient de lui, tout le monde dit que c'est un sorcier, son amie d'enfance, Delphine, le soupçonne de vouloir la perte de son élevage de faisans. Donc voilà, il ne comprend pas comment sa femme aurait pu l'abandonner pour un personnage aussi primitif, puisque c'est justement le milieu dont il a voulu échapper. Et en se mariant avec une femme qui, pensait-il, était l'antithèse de ce milieu-là, plutôt sophistiquée.
Oui, c'est elle qui l'a fait renoncer à sa carrière de rugbyman, à son désir de...
Oui, on sent qu'elle l'a coupé un peu de ce milieu-là aussi. Mmh. Et c'est peut-être pour ça qu'il l'avait choisie. Parce qu'il s'était trouvé une femme qui, finalement, il était sûr qu'elle ne voudrait pas vivre en Sologne ou retourner dans un milieu comme ça.
Donc, cette terre de chasseurs et de sorciers, qui est vraiment la marque de vos deux romans noirs, là, mais on oserait dire que, enfin, on oserait faire une sorte de métaphore là aussi, que la traque du gibier, parce qu'il y a deux scènes de chasse dans chacun des deux romans qui sont des scènes de chasse, alors même si on n'est pas chasseur mais qui sont vraiment extrêmement bien rendues. Enfin, on y est vraiment là aussi, de battus au sanglier et au cerf dans le deuxième, qui est encore plus difficile que dans La fille de la pluie, qui est plus éprouvant pour le lecteur. Et la traque, elle aussi symbolique, puisque cette, bon, bien sûr, la femme gibier, la femme victime, mais en même temps ce sont ces personnages masculins aussi qui sont traqués.
Oui,
traqueurs.
Dans La fille de la pluie, ce que j'ai voulu, c'est montrer un peu au lecteur la chasse telle qu'il pourrait la découvrir de lui-même. C'est-à-dire que voilà, ce personnage du clerc, qui n'est pas chasseur, il se retrouve emmené par Sébastien, viens, on va une battue au cochon. Il n'a pas le choix, lui, sa voiture est en panne, et il bénéficie de l'hospitalité de ces gens-là, donc il n'ose pas lui dire non, il n'a vraiment pas envie d'y aller, c'est bon.
Il attend son train pour en faire entrer.
Il attend son train, voilà, et bon, alors du coup, il accepte, il se retrouve embringué, donc j'essaie de décrire, voilà, par un néophyte total, il se retrouve, alors il entend des coups de trompe dans la forêt, il voit des formes qui courent au loin, il entend des coups de feu, et il se passe pas grand-chose, il voit les chiens, et puis à la fin il arrive, il voit des chasseurs, il y a un sanglier qui est mort dans l'herbe. Voilà, donc j'ai vraiment essayé de le décrire pour voir ce qu'était une partie de chasse à des gens qui connaissent pas forcément, sans chercher à ce qu'il y ait un discours pro ou anti-chasse, c'était pas mon propos. Une découverte, voilà, de ce que pouvait être une chasse au sanglier basique, avec ce jeune qui est passionné et qui, lui, voudrait plutôt en faire son métier que rester dans le domaine agricole. Et dans D'ombre et de flamme, là, on est dans une dimension plus mystique, puisque là, quand le gendarme va finalement participer à cette chasse où il va tuer un grand cerf, là, on est dans où le cerf va du coup jouer le rôle d'agent aussi là, magique du destin, un rapport avec l'autre monde. Et là, c'est vraiment le rapport, j'ai voulu exprimer vraiment plus le rapport à la mort qu'ont tous les chasseurs, puisque finalement, l'objectif, c'est ça. Moi, je suis chasseur et je n'aime pas les gens qui disent « La chasse, c'est un sport. Je vais à la chasse pour promener mes chiens. Je vais à la chasse pour prendre l'air. Je vais à la chasse parce que j'aime la nature. » Non, c'est pas vrai. On va à la chasse pour tuer du gibier. C'est le but ultime de l'acte de chasse. Et alors, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à faire partager ou à faire comprendre. C'est ce moment où, quand l'animal est mort et on le regarde et on a ôté la vie à un être vivant, et c'est un moment extrêmement grave. Moi, j'ai jamais vu de chasseurs depuis 20 ans que je chasse qui sont là et qui sautent de joie ou qui rigolent ou qui se moqueraient de l'animal qui est mort. Et voilà, c'est il y a toujours, il touche l'animal parce que voilà, il lui dit quelque part, je t'ai ôté la vie, excuse-moi, on se retrouvera dans l'autre monde. Et c'est cette transmission parce que c'est le, je pense, c'est l'acte magique et c'est, il faut pas l'oublier. C'est pour ça que voilà, la chasse n'est pas un sport. L'animal n'a pas d'arme à feu, il peut pas se défendre et c'est pas, il y a pas de fair play. Le devoir du chasseur, c'est de tuer l'animal sans qu'il souffre le plus rapidement possible. Et c'est ce rapport-là que j'ai voulu exprimer pour dire aussi. C'est pour ça que les chasseurs portent, je pense, beaucoup de côté négatif par les gens qui sont pas chasseurs ou qui seront a priori anti-chasse. Moi, j'ai grandi dans un milieu qui est pas chasseur. C'est mon beau-père qui m'a initié quand j'étais déjà adulte. Mon père ne chasse pas, mes oncles ne chassent pas. Il y a que mon grand-père qui chassait étant plus jeune et il m'avait donné son fusil avant de disparaître. Mais voilà, il faut pas oublier, c'est ce moment-là. Et pourquoi les chasseurs sont pas aimés, c'est pour ça. C'est parce qu'on tue des animaux et donc on est l'expression de la violence que les gens ne veulent plus assumer. C'est-à-dire que moi, je comprends les végétariens qui disent « je n'aime pas les chasseurs parce que vous tuez des animaux et moi, je ne mange pas de viande ». Après, tous les gens qui vont au fast-food, il faut savoir qu'ils mangent des poulets qui sont à moitié déments, bourrés d'amphétamines, qui ne voient jamais le jour, qui sont élevés dans des conditions qu'on ne peut pas appeler autrement que concentrationnaires. Donc voilà, c'est le chasseur aujourd'hui porte la responsabilité de la mort de l'animal qui est dans son assiette et on l'assume. C'est-à-dire que on a tué un chevreuil, le chevreuil, on l'a vu vivant courir, on l'a vu mort, on l'a tué, c'est nous qui en portons la responsabilité. Et après, eh bien, on le dépouille, on l'ouvre, il faut mettre les mains dans les tripes, il faut le vider, après il faut le débiter en quartier, il faut l'emmener chez soi, il faut le recouper, il faut le mettre dans son congélateur, il faut le cuisiner. Et au final, quand on a le morceau de viande dans son assiette, on se rappelle que c'était un être vivant qui courait dans la forêt et qu'on a tué, et il y a eu tout le processus pour que ça vienne de la viande dans notre assiette. C'est pas de la viande, comme beaucoup de gens aujourd'hui croient que la viande pousse dans les bacs congélateurs des supermarchés. Non, c'est des animaux qui étaient vivants et qu'on a tués pour se nourrir. Donc voilà, c'est ça que j'ai voulu exprimer plutôt dans cette scène de chasse-là, c'est que c'est un acte grave qui n'est pas anodin, où on tue un être vivant et il faut l'assumer. Et il faut accepter ce rapport primordial à la mort. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, la mort, c'est le grand tabou hein, dans nos sociétés. Ça fait longtemps que le sexe n'est plus un tabou. Aujourd'hui, c'est la vieillesse et la mort qui sont les grands tabous. Et les chasseurs, puisqu'ils sont les vecteurs de la mort, et en plus, vecteurs d'une mort violente, puisque c'est par arme à feu, je pense que c'est ça qu'on paye plus que la cause animale. Je pense que la cause animale n'est pas en jeu. S'il y a des chasseurs qui maltraitent des animaux, je les condamnerais volontiers. Mais je pense que vraiment, l'enjeu, il est là. Il est dans le rapport à la mort et c'est ce que cette scène exprime.
Et oui, on voit combien cette dimension, oui, presque charnelle et mystique, vous avez à la nature, à la nature humaine et oui, à l'environnement, quoi, toute cette dimension qui est vraiment presque une dimension sacrée pour vous, quoi.
Ah oui, tout à fait. Pour moi, la nature, c'est un temple. C'est quand je suis à la chasse, voilà, je suis posté, je suis tout seul dans mon coin pendant 2 heures. Il peut se passer du gibier ou pas du tout. Voilà, je vais regarder les arbres, je vais regarder la lumière qui joue entre les feuilles, je vais sentir les odeurs de la forêt. Voilà, c'est un environnement dont j'ai besoin. C'est-à-dire, si je vais être trop longtemps en ville, je vais être malheureux. Parce que c'est agréable d'avoir comme ça de l'animation, des gens, des choses à faire. Mais moi, je m'ennuie pas du tout, tout seul à la campagne. J'ai pas besoin d'avoir en permanence du bruit autour de moi. Et c'est une forme de recueillement. Après, on va me dire, oui, c'est une vision personnelle que partagent pas forcément tous les chasseurs. Évidemment, moi, je chasse dans une petite chasse communale avec des gens de mon village. Ils sont nés dans mon village. Ils y mourront certainement. Et eux, c'est plus une tradition. C'est un mode de vie et ils n'ont pas ce rapport intellectualisé, je dirais, à la chasse. Pour eux, si je leur dis « Ah, la chasse, c'est un moment sacré », ils vont dire « Ah ouais, ce qui est sacré, surtout, c'est l'apéro le midi », parce qu'il y a cette dimension conviviale et charnelle de la chasse aussi. Voilà, forcément, c'est pas... Moi, en tant qu'écrivain, forcément, je le réfléchis et je l'intellectualise, on va dire, sans vouloir être pédant, mais tout le chasseur de base, je dirais, ils n'ont pas forcément cette réflexion-là, mais je sais qu'à chaque fois que j'observe à la chasse, quand il y a un animal mort, il y a toujours 2 ou 3 chasseurs autour, ils regardent et ils disent rien. Ils disent rien, parce qu'ils ne vont pas le formaliser, mais c'est une forme de recueillement. Il y a toujours un silence, comme ça, on regarde l'animal et personne ne dit rien, et à un moment donné, la discussion va reprendre, mais... Puis après, il y a aussi la tradition de la dernière bouchée qu'on met dans l'animal. Et normalement, à la fin des battues qui se respectent, on rend les honneurs à l'animal. C'est-à-dire que voilà, on se découvre et puis on regarde les gibiers qui a été tué. Et éventuellement, dans certaines chasses, on peut jouer un morceau de trompe où on rend les honneurs aux animaux. Parce que c'est pas, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est pas juste on va en forêt pour flinguer des pauvres animaux qui n'ont rien demandé, puis on est content. Parce que...
D'où le côté que ce n'est ni un sport, ni un loisir. Ni un...
Ah non, moi, ça me plaît pas que les gens disent c'est un sport. Non, un sport, c'est on prend un ballon, puis on va jouer, on fait une partie de rugby ou de football ou un match de tennis. Ça, c'est un sport. Il y a des règles, c'est du fair play. Non, la chasse, c'est pas un sport. On tue des êtres vivants.
Et donc justement, quand on vous a demandé vos coups de cœur, si vous vouliez en parler, alors je n'ai pas trouvé la forêt muette de Pierre Pelot, puisque c'était épuisé, mais j'ai trouvé un autre ouvrage, une novélisation, alors je ne connaissais pas, tirée d'un film de Doug Edline, donc le fils de Manchette, Brocéliande, qui était aussi dans la forêt. Alors lui, c'était la forêt muette, c'était les Vosges, je crois.
Oui, la forêt des Vosges, le cul de la mort.
Et la Brocéliande aussi, c'est une terre forcément de...
Voilà, Pierre Pelot, je pense que c'est un auteur qui m'a influencé, forcément. Puisque
la forêt muette, oui.
Voilà, c'est même Si loin de Caen, qu'on trouve toujours chez Rivage. Cet ouvrage-là, bon, je ne l'ai pas lu, mais il m'a l'air vraiment toujours dans cette thématique de ce rapport à la forêt, avec une dimension fantastique. C'est un auteur populaire qui a écrit, je crois, près de 300 romans depuis les années 60. Il a fait du western, de la science-fiction, du roman historique. Il a fait des romans noirs très bons. La forêt muette, si vous pouvez le trouver en occasion, c'est une lecture assez éprouvante. Il y a une scène centrale qui est vraiment très, très marquante et qui est très dure, mais qui est en plus une narration en avance sur son temps. Puisqu'en fait, je ne veux pas déflorer l'histoire, mais il y a, un truc narratif qu'on va retrouver 20 ans plus tard dans certains films américains. Donc, il a eu un rôle précurseur. Et c'est vraiment une lecture où il y a cette scène centrale. Et puis, cette forêt des Vosges qui est là, prégnante, vraiment un personnage à part entière avec ses bûcherons. Ce lieu-là, le cul de la mort, qui, je pense... inconsciemment a peut-être influencé ma Combolou dans la fille
de la pluie. Dans la Combolou, oui, vous avez une lecture.
Et à la fin,
personnelle.
Il y a cette espèce de rebondissement et on est... Ah, c'est vraiment une lecture très forte, mais en général, même Si loin de Caen, c'était aussi assez intéressant dans un clan familial comme ça qui vivait au fond de la forêt des Vosges. C'est un auteur qui mérite d'être lu et relu, puisque bon, beaucoup de gens l'ont lu avant moi. Hein, et voilà, c'est un coup de cœur intéressant, Pierre Pelot. Bon, j'avais pas trop apprécié, c'était son travail sur le scénario du Pacte des loups, mais c'est purement anecdotique.
Et après, vous citez, puisque vous avez un blog et vous êtes critique littéraire aussi, oui. et vous citez aussi Chienne de Marie Vendy, qui est un roman contemporain, vraiment oui. une jeune auteure qui vit à Dijon. Elle fait ses romans dans la ruralité aussi, sauf celui-là, Chienne, qui est plus dans la banlieue.
Voilà, elle est chroniqueuse judiciaire, en fait, pour un quotidien de la presse de Dijon. Et du coup, elle a forcément vu beaucoup de cas et pris beaucoup de notes. Et jusqu'ici, elle s'était concentrée, oui, plutôt dans une veine rurale, centrée autour de l'équitation, aussi des personnages de gendarmes, des romans qui étaient très intéressants. Et puis là, elle s'est plongée au cœur de la banlieue urbaine, mais ça va au-delà de la banlieue. C'est-à-dire que c'est un espace qui est prête à être détruit. On voit que c'est dans les zones de reconstruction, comme ça, où vraiment des banlieues qui déjà sont en perdition depuis très longtemps, où les habitants compus l'ont fui, et où ceux qui restent, c'est vraiment le fin fond de l'exclusion sociale, de l'absence totale d'espoir. C'est un roman qui est très dur. Là, c'est pareil. Comme c'est un auteur qui a du talent, il n'y a pas de vulgarité dans ce qui est décrit, il n'y a pas de complaisance dans la violence qui est décrite, mais c'est vraiment un roman coup de poing, là, je pourrais dire, pour ceux qui aiment le polar urbain contemporain. Alors, c'est très dur, on n'en sort pas forcément indemne, on reste marqué un peu par ce roman qui nous hante, mais je pense que c'est un auteur qui mérite d'être découvert et que je vous encourage à lire tous ses titres, et notamment celui-là.
C'est une trilogie, apparemment. Une femme seule, Cavale, oui. Le dernier donc voilà. Chienne au pluriel, qui est un titre déjà aussi coup de poing.
Oui, parce qu'il c'est aussi voilà, c'est une femme et elle s'est intéressée aussi aujourd'hui à la façon dont les femmes peuvent être traitées dans certaines banlieues. Donc c'est, on pourrait dire que c'est féministe, mais sans le discours politique ou le militantisme. Voilà, elle se contente à travers une fiction de décrire, qu'on sent qu'il est appuyé sur des faits réels aussi. Voilà, les enjeux du féminisme aujourd'hui dans certaines zones urbaines. Le rôle de la femme, après tous les combats qu'on a eus pour que la femme ait des droits égaux. Et aujourd'hui, on voit que dans certains endroits, on revient en arrière, mais en arrière de plusieurs siècles, pas en arrière de 20 ou 30 ans. Et c'est un roman qui, je pense, mérite d'être lu. Et c'est...
Oui, comme il y a l'émergence de nouvelles voix dans le polar, les voix féminines aussi, oui. les auteurs beaucoup, femmes oui. françaises sont légion aussi. Quoi.
Oui, vous parliez d'Elsa Marpeau tout à l'heure, qui est vraiment une des voix nouvelles intéressantes. Il y a Sandrine Collette aussi, qui a écrit des polars ruraux. Voilà, il y a toute une génération de femmes qui s'intéressent aux romans noirs. C'est très bien, parce que du coup, ça amène une vision différente. Parce qu'on voit qu'elle, le côté l'enquêteur qui fait son enquête, un peu séducteur ou alors solitaire, qui écoute du Wagner tout seul avec son chien dans son appartement, ça les intéresse pas trop. Elle cherche Elsa Marpeau ou Marie Vindy, elle cherche d'autres problématiques. Et c'est une forme de renouveau et de nouveau souffle dans le polar contemporain francophone. Et c'est très bien.
Merci beaucoup, Pierre.
Merci à vous.
Merci. C'était très, très intéressant. Et justement, la vision du monde, tout ça, enfin voilà quoi, le côté, le polar qui perturbe, qui fait bouger les lignes, tel qu'Aurélien Masson le veut aussi, vous en faites partie intégralement, quoi.
J'espère.